Apocalypse Now sur Wii FM avec Iris.
Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine, on parle rock et cinéma sur Wii FM. S'il y a un groupe qui a capitalisé sur ses produits dérivés, c'est bien Kiss. Mais en la matière, ils n'ont pas toujours eu du pif. Comme pour ce film qui, en 1978, surfant sur leur grosse notoriété, aurait dû achever de leur faire tutoyer les étoiles, alors qu'il a plutôt contribué à sérieusement entamer leur street credibility. Kiss contre les fantômes, l'une des séries Z les plus nazes de la planète ciné, au point que, jusqu'à une date pas si lointaine, tous les membres de l'équipe ayant travaillé sur sa production avaient interdiction formelle d'évoquer le film en présence des membres du groupe. C'est pourtant Gene Simmons, bassiste et membre fondateur de Kiss, et Bill O'Coin, leur manager artistique, qui ont eu cette brillante idée pour s'attirer les faveurs d'un public toujours plus jeune, motivé par le carton d'un comic book à leur effigie sorti quelques temps auparavant qui avait explosé les ventes de Marvel. Un record quand même gardé pendant 10 ans. Il faut dire que chaque membre de Kiss avait mêlé quelques gouttes de leur sang à l'encre rouge de la couverture. Grâce à ce succès, dans l'imaginaire commun, Kiss avait obtenu le statut de super-héros, un concept tout naturellement adaptable en film. En un téléfilm plus précisément, produit par Hanna-Barbera. Et c'est là que le choix aurait dû être effectué avec plus de minutie. Parce qu'Hanna-Barbera, c'est la compagnie qui a produit Tom et Jerry et Scooby-Doo. Ceci expliquant le sujet et le résultat final, copié-collé d'une intrigue à la Scooby-Doo, mais en moins réussi qu'un Scooby-Doo.
Laissez-moi passer, je vous en prie.
Regarde-moi. La connaissance s'exprime sans paroles. Tes pensées nous parlent clairement.
Tu cherches quelqu'un, mais pas les Kiss.
Dans Kiss contre les fantômes, un savant fou, en charge de tous les automates du célèbre parc d'attractions Magic Mountain en Californie, voit ses crédits coupés après qu'il a mis les comptes du parc dans le rouge.
Comment peut-on parler science avec un comptable ?
Pour renflouer les caisses, le directeur fait appel à Kiss pour un grand concert. Bien décidé à se venger, le savant crée notamment des répliques cyborg du groupe pour saboter leur performance et pousser le public à l'émeute. Mais tout ça sans compter que chaque membre de Kiss possède des super pouvoirs. Gene Simmons est doté d'une force surhumaine et crache du feu, Paul Stanley a un œil rayon laser qui lui permet de contrôler l'esprit d'une personne ou d'écouter des conversations à distance, Ace Frehley peut se téléporter et Peter Criss sauter incroyablement haut. Et ils en auront besoin, puisqu'ils vont se retrouver au cœur de combats improbables contre toutes sortes d'androïdes, comme des robots singes tout moisis par exemple. Toujours plus what the fuck, si Kiss a bien glissé une playlist de quelques-uns de leurs titres phares dans la bande originale, le score est une immonde bouillasse disco de supermarché. Ils seront remplacés par des morceaux un peu plus rock lors de sa sortie en salle en 1980. En même temps, on est très vite fixé sur le spectacle auquel on va assister. Rock'n'Roll All Night nous cueille dès le générique d'ouverture. Mais autant la chanson est cool, autant c'est visuellement kitsch. Les membres du groupe apparaissent en surincrustation géante sur des images de montagnes russes avant de flotter dans le ciel du parc aux commandes d'un wagon d'autotamponneuse. Logiquement que Rock'n'Roll All Night a été choisi pour introduire le film, puisqu'il est rien moins que le morceau signature du groupe, créé dans ce but en 1975 sur l'album Dressed to Kill. À l'époque, Kiss a besoin d'un hymne, d'une chanson qui puisse être le cri de ralliement de tous ses fans, car son identité musicale n'est alors pas claire. Tous portent un costume et des maquillages différents, mais sans thème commun. Paul Stanley trouvera le refrain et la mélodie, Gene Simmons les couplets. Rock'n'Roll All Night and Party Every Day, jouer du rock toute la nuit et faire la fête tous les jours, devient alors leur manifeste. Dès lors, Kiss joue ce titre à presque chaque concert en ultime morceau de rappel. Suite à ce générique prometteur, on ne reverra le groupe qu'après 30 longues minutes de film pour interpréter Shout It Loud et montrer l'étendue de leurs pouvoirs qui n'ont d'ailleurs aucune justification. La bande originale comporte aussi une version acoustique de Beth, pas dégueu du tout, chantée par Peter Criss au bord d'une piscine.
Just a few more hours and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh Beth, what can I do?
Ou la reprise de Hotter Than Hell, retitrée pour l'occasion Rip and Destroy par les Kiss Cyborg, pour inciter la foule à déclencher des émeutes avant que les véritables membres du groupe ne débarquent en volant sur scène pour leur péter la gueule dans un grand festival d'étincelles, de claques à la Bud Spencer et de chorégraphies exécutées à deux à l'heure.
Rip and destroy. You know the hour's getting late. You have to stay.
What are you guys doing?
Rip, rip,
no, no.
Rip and destroy.
film est absolument lunaire, sa production et son tournage notamment ne sont pas loin d'être aussi what the fuck. L'ambiance n'est en effet pas au beau fixe entre les membres de Kiss au moment du tournage. De plus, Ace Frehley, en lutte contre son alcoolisme, oublie de se présenter sur le plateau à de nombreuses reprises quand il ne le quitte simplement pas parce qu'il s'y ennuie. Au point que sa doublure, Alan Olaine, un afro-américain maquillé pour lui ressembler, prendra sa place dans plusieurs scènes. Quant à Peter Criss, ce n'est pas non plus sa voix qu'on entend à l'écran. Il a dû être doublé par l'acteur Michael Bell, habitué à travailler pour Hanna-Barbera. La raison ? Lui non plus ne se présentait pas lors des séances de doublage, certains disant qu'il était surtout trop défoncé pour parler clairement. Bref, la production avait vendu le film à Kiss comme un 4 garçons dans le vent, le film sur les Beatles, matinée de Star Wars. Paul Stanley racontera que la première fois qu'il a vu le film, il s'est ratatiné dans son fauteuil de honte et ne voulait qu'une chose, ramper hors de la salle. Toujours est-il que Kiss contre les fantômes est diffusé le 28 octobre 1978 sur la chaîne NBC aux États-Unis, où il ne sortira jamais au cinéma. Contrairement à la France, où il est proposé dans les salles en avril 1980. Très longtemps introuvable en vidéo, Kiss ayant fait la paix avec eux-mêmes ou étant vraiment prêt à tout pour gagner des sous, a finalement publié le film sur le DVD Kissology Volume 2 en 2014. Arocalypse Now, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode.
Retrouvez tous les épisodes d'Arocalypse Now en podcast sur wfm.fr.